Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, Chef-lieu-Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
Espèce d'espace, espace, espace, espace.
Alors, je peux m'en aller ?
Ben oui, vous êtes libre.
Tant mieux, parce que moi, j'adore ça, la liberté.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette.
La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu.
Que se passe-t-il là-bas ?
Le bordel.
Se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites.
D'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman.
Arabo-musulman.
Il s'est fait tuer, j'espère.
S'il fallait tuer tous les imbéciles.
Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses.
C'est moins qu'on puisse dire. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques.
Vous avez fait taire le muezzin ?
Après avoir parlé dans notre dernière émission de l'insularité en ville, en prenant pour exemple l'île de la Cité à Paris et l'île de Dahab au Caire, où tu te trouves, Corten, nous voici repartis pour une nouvelle émission entre le Caire et Paris.
Cette fois-ci, toujours dans une perspective comparatiste, nous souhaitons aborder la thématique de l'espace religieux en ville.
Pour ce faire, nous avons choisi de vous parler de deux mosquées.
La première est la mosquée d'Ibn Touloun. Construite au IXe siècle, elle constitue le plus vieil édifice islamique encore debout au Caire.
La seconde est la grande mosquée de Paris, située au 6 rue Georges Desplats dans le 5e arrondissement. Elle est légèrement plus récente que celle d'Ibn Touloun, puisqu'elle a été inaugurée en 1926.
Nous voici donc avec deux mosquées séparées l'une de l'autre par 3209 km, mais qui remplissent une même fonction, servir de centre religieux pour les communautés musulmanes, kérotes ou parisiennes.
À ce titre, il semble intéressant de se demander comment ces édifices, l'un et l'autre monumentaux, s'intègrent chacun au sein du quartier et plus généralement de la ville dans laquelle ils se trouvent.
Est-ce que nous retrouvons des dynamiques semblables dans et autour d'Ibn Touloun et de la Grande Mosquée de Paris ? Est-ce que l'on peut parler de la Grande Mosquée de Paris comme d'une transposition d'Ibn Touloun ?
Que veux-tu dire par là ?
Comme tu viens de nous le dire, Alexandre, la Grande Mosquée de Paris a été construite près de 11 siècles après celle d'Ibn Touloun. Il me semble par conséquent intéressant de savoir si l'on peut observer un transfert architectural entre Ibn Touloun et la Grande Mosquée de Paris.
Tu veux dire si la Grande Mosquée de Paris a pris ou non comme modèle Ibn Touloun, mosquée pluriséculaire et véritable référence dans le monde arabo-musulman.
Oui, et plus généralement de s'interroger sur le modèle de la mosquée. Est-ce qu'il existe un modèle unique de mosquée ou au contraire plusieurs modèles qui chacun peuvent structurer les mosquées dans leur organisation interne et dans leur relation avec la ville environnante ?
Sans oublier qu'au-delà de l'existence de ce ou de ces modèles, chacune de ces mosquées a une portée symbolique particulière.
Effectivement, que l'on soit croyant ou non, parisien, kérote ou touriste, on ne peut être que frappé par ces monuments emplis d'un héritage religieux, bien sûr, mais aussi architectural, culturel et historique.
أشهد أن لا إله إلا الله.
Essayons d'abord de comprendre, de visualiser de quoi il s'agit, et donc de faire une brève description de ces deux lieux que vous connaissez peut-être ou pas.
Ce qui frappe au premier regard, c'est la différence de dimension dans l'occupation au sol. La mosquée d'Ibn Touloun couvre une surface de 25 000 m2, contre 7500 pour la Grande Mosquée de Paris.
Ce qui a des implications directes sur leur organisation interne.
Oh, c'est déjà du bon palais, là.
Lorsque l'on veut entrer pour la première fois dans la mosquée Ibn Touloun, au cœur du quartier populaire de Saïda Zainab, on en fait déjà tout le tour, parce qu'il n'y a qu'une seule entrée, monumentale certes, mais qu'il faut quand même trouver.
Et ensuite, une fois passé le premier mur d'enceinte, qui coupe ainsi la mosquée du reste de la ville, un immense espace ouvert, à l'air libre, s'ouvre aux yeux des visiteurs.
Et au milieu de ce grand carré libre, une fontaine pour les ablutions.
On peut ensuite accéder, moyennant un petit bakchich, au minaret en spirale, qui ouvre sur une sorte de terrasse, faisant le tour de toute la mosquée.
Ibn Touloun est donc organisé en carrés concentriques. Le mur d'enceinte de plusieurs mètres de haut, le mur de la mosquée, à proprement parler, des arcades qui font office de lieu de prière, un espace vide de 8000 m2 environ, Et enfin, la fontaine centrale.
La sensation d'espace libre, renforcée par la faible fréquentation touristique du lieu et cette organisation architecturale, crée une véritable coupure sonore et visuelle avec l'environnement urbain.
On retrouve cette rupture à la Grande Mosquée de Paris, mais avec une structure interne différente.
Les dimensions sont moins importantes, elle peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Mais elle concentre surtout de nombreuses fonctions différentes, à la différence d'Ibn Touloun, qui ne semble ouverte qu'à la prière et à la visite.
En effet, la mosquée de Paris accueille une salle de prière, mais aussi une bibliothèque, une école, une salle de conférence, un restaurant, des jardins et des hammams.
Elle ne repose pas sur ce principe de créer un espace ouvert au cœur de la ville, mais est plutôt caractérisée par une juxtaposition de fonctions reliées au bâtiment, au cadre.
Ces décalages dans la gestion de l'espace et dans les principes architecturaux s'expliquent-ils par la date de la construction des mosquées ?
La mosquée d'Ibn Touloun ayant été construite entre 876 et 879 ?
Et la mosquée de Paris étant inaugurée en 1926 ?
Ou est-ce qu'elles ont été conçues selon deux modèles différents ? Peut-on parler d'un modèle unique de mosquée ?
Au-delà de la notion de style islamique, qui est utilisée pour caractériser les deux mosquées, mais qui reste très générique, la différence d'inspiration architecturale entre Ibn Touloun et la Grande Mosquée semble surtout géographique.
Alors que la mosquée d'Ibn Touloun a été construite dans un pays appartenant à l'empire califal abbasside, et donc plutôt tournée vers le Moyen-Orient et l'Irak en particulier,
la Grande Mosquée de Paris est religieusement et culturellement liée à l'Algérie et au Maghreb, notamment parce qu'elle a été construite en hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane qui avaient combattu pour la France lors de la Première Guerre mondiale.
On retrouve cette divergence dans les minarets des deux mosquées.
Celui d'Ibn Touloun, en forme hélicoïdale, est inspiré de la mosquée de Samarra en Irak,
alors que le minaret de la Grande Mosquée prend comme modèle celui de la mosquée de Zitouna en Tunisie.
Donc plutôt que d'avoir un modèle architectural de mosquée, il semble que cela dépend du contexte géographique et historique de la construction.
En revanche, en ce qui concerne l'insertion de la mosquée dans le quartier et la multifonctionnalité de ce lieu, on peut se demander s'il n'y a pas des similitudes entre Ibn Touloun et la Grande Mosquée.
Si l'on suit l'analyse d'André Raymond dans son article « Ville musulmane, ville arabe, mythe orientaliste et recherche récente », la ville arabe traditionnelle dans laquelle est construite la mosquée Ibn Touloun est marquée par une forte séparation entre fonctions résidentielles et économique.
Il y a donc dans ce modèle urbain une vaste zone centrale qui concentre les activités et les bâtiments tournés vers l'économie, la religion et l'enseignement.
La mosquée est fortement liée au marché, aux espaces publics dans la ville.
Et même si elle semble coupée du reste de la ville par ce mur d'enceinte imposant, la mosquée d'Ibn Touloun se construit en rapport avec le quartier de Sayyida Zainab, et elle s'y intègre comme lieu de rassemblement public.
Le contexte urbain de la Grande Mosquée de Paris semble bien différent.
Située dans le 5e arrondissement, à proximité du Jardin des Plantes, on peut constater le peu de relations avec le quartier environnant, si ce n'est la proximité de la librairie arabo-musulmane Al-Bustanais.
La Grande Mosquée de Paris, en tant que lieu de prière, s'identifie moins directement au quartier, au 5e arrondissement, qu'à la ville entière, en attirant des fidèles venant de tout Paris.
Mais c'est aussi un lieu touristique, qui accueille entre autres le restaurant aux Portes de l'Orient.
On peut aller à la mosquée pour prendre un thé et manger des pâtisseries, ce qui interroge sur la fonction de ce lieu.
On peut avoir tendance à voir la mosquée comme un lieu exclusivement dédié à la religion. Dès lors, la mise en valeur touristique, présente à Ibn Touloun comme à Paris, de façon plus ou moins explicite, peut surprendre.
Mais Hugh Kennedy nous rappelle dans « De la police à la Médina » que la mosquée est née aussi comme un espace public, un espace qui a remplacé l'agora, donc l'assemblée, ou encore le tribunal et l'école.
Ibn Touloun a ainsi été successivement utilisé comme atelier, puis comme asile pour infirmes, avant d'être restauré au XXe siècle comme lieu de prière et comme attraction touristique.
La Grande Mosquée de Paris, elle, semble avoir été pensée dès sa construction comme pouvant attirer à la fois des fidèles, des touristes et des habitants du quartier voulant déjeuner ou prendre un thé.
On ne peut donc pas parler d'un transfert de modèle architectural et urbanistique de la mosquée d'Ibn Touloun à la mosquée de Paris, mais on peut identifier des caractéristiques communes.
Soit dans la façon dont elles sont intégrées à leur environnement urbain,
soit dans leur multifonctionnalité.
C'est la mise en tourisme qui fait le pont entre ces deux lieux, ce qui s'explique par une même portée symbolique liée à la monumentalité des deux bâtiments.
Connais-tu cette musique, Corten ?
Bah oui, bien sûr, c'est le thème de la saga des James Bond. Mais je vois pas ce que 007 a à voir avec notre émission sur les mosquées.
Et pourtant, dans le film L'espion qui m'aimait, sorti en 1977, on retrouve bien l'agent britannique, alors interprété par Roger Moore, dans la mosquée d'Ibn Touloun. Nobody does it better. Makes me feel sad for.
Ainsi, pour représenter la capitale de l'Égypte le plus efficacement et à moindre coût, le réalisateur de ce film, Lewis Gilbert, a choisi de faire déambuler James Bond dans la mosquée Ibn Touloun.
Cet exemple montre que la mosquée, au-delà de son aspect éminemment religieux pour les fidèles, a également une portée symbolique.
Celle-ci provient sans doute avant tout des dimensions remarquables de cette mosquée.
Il ne faut pas oublier à ce titre que son constructeur, Ahmed Ibn Touloun, a voulu faire de cette mosquée un symbole de la grandeur de l'Égypte, et ce alors qu'il redonnait à l'Égypte son indépendance au sein de l'Empire califal.
C'est ainsi que, et ce encore de nos jours, avec ses 2,5 hectares au sol et son minaret de 40 mètres de haut, la mosquée ne passe pas inaperçue au Caire.
C'est en effet une des plus grandes mosquées du Caire, en plus d'être la plus ancienne.
En ce sens, elle est un des monuments les plus prestigieux de la capitale égyptienne, un de ceux qui représentent le mieux la ville du Caire.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, de nos jours, on trouve sur les billets de 5 livres égyptiennes une représentation de la mosquée d'Ibn Touloun.
Quant à la grande mosquée de Paris, elle a également une certaine portée symbolique.
Cette portée symbolique a à voir avec son ancienneté. La grande mosquée de Paris est en effet la plus ancienne mosquée en France métropolitaine.
À ce titre, elle occupe une place importante pour la visibilité de l'islam et des musulmans en France.
Au-delà de cet aspect fondamental, la grande mosquée de Paris apparaît également comme un lieu unique, avec ses jardins luxuriants, ses mosaïques multicolores et cette ambiance très dépaysante.
On a donc un espace propice aux escapades culturelles et culinaires, mais aussi aux rencontres.
Et ce n'est pas Bourville et Louis de Funès qui nous contrediront.
Where is the big moustache?
I don't know. And if you don't know, I don't know, no?
I don't understand.
You come with me to pick up Peter.
No, you come with me to pick up Macintosh.
No. You.
I beg your pardon.
And if you don't come, Ah, merde alors, comment on dit
ça? Comment ça, merde alors? But alors, you are French?
You are not English?
Non.
Vous aurez très certainement reconnu cet extrait de La Grande Vadrouille, film de Gérard Houry, sorti en 1966, qui reste toujours un des plus grands succès du cinéma français à ce jour.
Il est intéressant de remarquer que la Grande Mosquée de Paris est un lieu particulièrement important dans ce film.
Choisi initialement par le chef des aviateurs anglais comme lieu de rendez-vous pour retrouver ses camarades disséminés dans Paris,
la Grande Mosquée de Paris est le lieu de rencontre des personnages principaux du film, à savoir Stanislas Lefort, Augustin Bouvet et Sir Reginald Brooke, alias Big Moustache, interprétés respectivement par Louis de Funès, Bourville et Terry Thomas.
On peut supposer que les scénaristes du film n'ont pas choisi ce lieu au hasard, et qu'ils ont joué sur la place symbolique que joue au sein de Paris la Grande Mosquée. Un lieu atypique, mais accessible à tous, facilement reconnaissable et rassemblant fidèles, parisiens et touristes.
Ainsi s'achève notre seconde émission réalisée en duplex entre Paris et Le Caire.
Merci de l'avoir suivi.
N'hésitez pas à vous rendre sur radiocampusparis.org à la page Espèce d'espace.
Ainsi qu'à nous suivre sur Facebook et sur Instagram.
Rendez-vous dans un mois pour la dernière émission de l'année. Même heure, même onde. Don't you run when you